celui qui ne croit pas. C'est aussi simple que ça. Parce que la Bible nous dit, tu as ce que tu dis. Et que l'on soit d'accord ou pas avec le principe, c'est ce que la Bible nous dit, que nous avons ce que nous disons. Donc quoi que ce soit que l'on dise, on va l'avoir. Et donc il est bon de choisir ce que l'on veut dire parce qu'on sait qu'on va l'avoir. Et d'ailleurs, nous n'allons pas en entendre aujourd'hui, mais nous avons entendu les dimanches précédents des témoignages magnifiques. Et je sais qu'il y en a d'autres encore, de personnes qui disent, tu sais, Dieu m'a promis cela, j'ai cru, je l'ai déclaré et je l'ai eu. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça n'est pas vivre comme si Dieu n'était pas dans notre vie, même quand on croit en Dieu. La vie chrétienne, c'est voir la différence. Il y a une différence entre avec Dieu et sans Dieu. Pourquoi ceux qui ont Dieu devraient vivre comme s'ils ne l'avaient pas? Il y a juste un truc qui ne va pas. C'est-à-dire la vie chrétienne, elle ne commence pas au ciel. Je vais répéter, parce que certains ils sont un peu sous le choc là. Ok. D'ailleurs, vous allez m'aider. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, la vie chrétienne ne commence pas au ciel? Elle commence où? Ici-bas. Le moment où on accepte Jésus, ça y est, on a la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu nous permet de vivre comme un enfant de Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est exactement cela la vie chrétienne. Cela veut dire que maintenant, on a une nature dans notre cœur qui nous amène à penser différemment, à faire différemment, à voir différemment et à ne plus dépendre des circonstances de ce monde ici-bas, mais à dépendre uniquement des principes divins et des ressources divines qui sont à notre disposition. Et je vais m'arrêter là, je vais faire un gros effort pour ne pas continuer dans cette direction, parce que ça n'est même pas mon message. Donc, est-ce que vous voulez bien écouter ce message-là que j'ai? Hein? Alors, j'imagine que oui, si vous êtes venu, peut-être que vous avez répondu par sympathie à une invitation, peut-être que, bon, vous vous dites, après tout, je ne pouvais pas faire autrement parce que je suis invitée et puis je n'ai pas eu le courage de dire non. Mais vous savez, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes ici, je vais vous dire une chose, Dieu a un rendez-vous avec vous. Peu importe ce que vous croyez, vous, l'idée c'est que Dieu s'est arrangé pour que vous entendiez et pour que vous ayez cette invitation. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui fait du forcing, Dieu n'est pas quelqu'un qui s'impose, Dieu est celui qui invite, et même il invite à travers les circonstances, que nous le reconnaissions ou pas. Mais en tout cas, moi je vous dis, bienvenue dans ce temps de présence tangible avec Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire, hein. Peut-être que certains ils sont encore nerveux parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait fini la liste des cadeaux. D'autres sont nerveux parce qu'ils se disent, est-ce que je vais réussir mon premier repas? D'autres se disent, oh là là, ma décoration, j'ai oublié de mettre ceci. D'autres se demandent, est-ce que je n'ai pas laissé un fer passer allumé? Il y a toutes sortes de choses, c'est étonnant. Parce que je vous vois comme ça, vous avez les yeux ouverts, vous regardez dans ma direction, mais je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter ou pas. Mais il ne faut pas que je me pose la question. Vous voulez bien ouvrir votre Bible dans Luc? En tout cas, bienvenue à l'église, la bonne nouvelle ce matin. S'il y a une chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que nous sommes contents de passer ces moments avec vous. Nous sommes juste contents que vous soyez là. Peu importe si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas, peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous dites non, moi, tu sais, je connais Dieu et je l'aime. Quoi que ce soit, nous sommes content d'être avec vous ce matin. Vraiment content. Alors vous dites, oh, tu sais, pasteur, cette église, elle est différente. Oh, merci. Quel compliment. Quel compliment, parce que nous n'avons aucune prétention. Aucune prétention. Nous sommes juste des gens qui avons rencontré le Sauveur. Et nous n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, nous souhaiterions que vous en entendiez parler avec les oreilles de votre cœur. Luc chapitre 2, je vais vous lire un passage du verset 21 à 35, et puis ensuite je donnerai je partagerai avec vous quelques points de réflexion, et puis, nous laisserons le Saint-Esprit faire son travail. Luc chapitre 2. Alors, pour vous expliquer le contexte, Marie a reçu la visite d'un ange, une jeune femme, elle avait entre 14 et 16 ans, on ne réalise pas, on pense que c'est une femme mûre, etc. Non, c'est une jeune, elle est encore dans sa dizaine. Joseph, lui aussi, a été visité par un ange. Et lui a dit, cette jeune femme-là à laquelle tu es fiancée, et à l'époque, vous savez, être fiancée, ça équivalait à être mariée. Ça veut dire être déjà réservée pour quelqu'un d'autre, et c'était officiel. Donc c'était quelque chose, c'était vraiment un engagement. C'est pas comme aujourd'hui, je me fiançais, je verrai plus tard. Non, cela équivalait à être fiancée. Mariée, pardon. Et donc, Marie est visitée, et elle entend une parole extraordinaire qui lui annonce qu'elle va porter le Messie. Son corps va être un sanctuaire pour le Sauveur des hommes. Elle l'attendait. Elle l'attendait. Vous savez, Marie n'était pas une chrétienne comme on l'entend aujourd'hui. C'était une jeune femme juive qui avait entendu parler de la promesse que Dieu avait faite à son peuple et au monde entier, que Dieu se pourvoirait quelqu'un qui nous offre l'opportunité de nous ramener à lui, gratuitement. Donc elle savait que le Messie allait arriver. Joseph lui aussi savait, mais il ne pensait pas que ça allait être la jeune fille à laquelle il était fiancé, qui allait porter le Sauveur. Et puis, Jésus est né. Alors, nous célébrons la naissance de Jésus, mais aujourd'hui, eh bien, on sait que Jésus n'est pas né dans la nuit du 24 au 25 décembre, à vrai dire. Il y a une tradition païenne derrière. Et vous dites, oh ben ça ne sert à rien alors que l'on célèbre la naissance. Si, parce que, bien, au moins, il y a un moment pendant l'année pendant lequel nous faisons une pause et nous réfléchissons à un don ineffable, un don indescriptible qui a été fait à tout le monde, même à ceux qui n'en veulent pas, il y a déjà un cadeau que Dieu leur a fait. Et puis, il nous est parlé de ce qui se passe juste après, verset 21. « Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. » Donc, le huitième jour, l'enfant a été circoncis. Alors, vous savez, à l'époque, il le faisait parce que, bon, ben voilà, c'est ce qui se faisait. Mais aujourd'hui, médicalement, il est reconnu qu'il n'y a pas de meilleur jour dans la vie d'un homme d'être circoncis que ce huitième jour. Pour toutes les raisons médicales, c'est exactement le jour qu'il fallait choisir. Vous croyez que Dieu est celui qui sait plus que la science ? Vous savez, les gens disent « Oh, la science contredit la foi, contredit la doctrine biblique ». C'est faux. Quand il y a une contradiction entre la Bible et la science, c'est que la science n'est pas suffisamment avancée, contrairement à ce que l'on pense. Mais attendez qu'elle avance encore un peu plus, et d'ailleurs, plus la science se développe, plus la recherche avance, plus on découvre qu'elle confirme ce qui avait déjà écrit, non pas 2000 ans, mais des milliers d'années avant. Le huitième jour est arrivé, et il est dit, verset 22, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, c'est-à-dire loin du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Alors, il se trouve que quand les parents habitaient à Nazareth et il y a eu un édit qui est passé et qui faisait qu'à cette époque-là, il fallait qu'ils se rendent dans leur ville à Bethléem et qu'ils se fassent enregistrer. Et en route, Marie, qui portait l'enfant, et le moment d'accoucher est arrivé. Et la Bible nous dit que oui, eh bien, elle a accouché dans une étable. Et on pense que c'est parce qu'il n'avait pas assez pour s'offrir une chambre d'hôtel ou aujourd'hui, ce aurait été de se rendre à l'hôpital. Non, c'était simplement parce que la Bible nous dit qu'il y avait déjà trop de monde. Tout le peuple d'Israël, vous imaginez, c'était pire que les juilletistes qui croisent les haoussiens en France. C'était pire que ce mois, le chassé-croisé. C'était tout Israël qui était en train de se déplacer pour se faire enregistrer, pour donner leur nom. Cela avait à voir avec un recensement qui allait avoir lieu, etc. Et donc, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient là. Beaucoup de gens qui étaient là à Bethléem. Et quand Marie arrive sur place, il n'y a plus aucune place. Et le seul endroit que l'on puisse lui trouver, qui puisse un peu la protéger des regards extérieurs et lui créer un peu d'intimité, ben, c'est dans cette crèche. Donc voilà, elle est dans cette crèche. La Bible nous dit, après, au bout de 8 jours, l'enfant devait être circoncis. Mais on sait qu'au bout de 40 jours, eh bien, il fallait que le jeune couple se rende à Jérusalem avec l'enfant pour qu'il soit présenté au Seigneur. Et là, à Jérusalem, parce que notamment ici, il est question d'un enfant mâle et en plus d'un premier-né, il fallait qu'il soit racheté. Et il y avait un sacrifice pour consacrer le premier-né au Seigneur. Donc c'était vraiment tout un ensemble de rituels et de rituels et de rituels. Vous savez, quand Jésus est né, on pense que, oh, si Jésus était né à Nice, on l'aurait accueilli. Non, on n'aurait pas fait mieux que ceux qui étaient à Bethléem. On ne l'aurait pas accueilli mieux. Vous savez, à Bethléem, il y avait des gens qui étaient importants, des notables de la ville et qui n'ont jamais su que le roi des rois était né parmi eux. Il y a des tas de gens qui l'ont su et qui disent « Oh oui, depuis le temps qu'on attend que les prophéties se réalisent » et qui ont passé outre. Peu de gens ont cru à cette nouvelle qui commençait à se répandre. Les bergers avaient entendu la bonne nouvelle. Le mieux, c'est qu'elle était transmise depuis des milliers d'années. Le Messie va venir. Nous avons la promesse. Le Sauveur va venir. Il va nous racheter. Il va nous montrer le chemin qui nous ramène gratuitement vers le Père. Il va nous assurer un futur éternel. Parce que oui, la vie avec Dieu commence sur terre, mais elle ne s'arrête pas sur terre. Elle nous amène jusque dans l'éternité. Et l'éternité, c'est long. Alors, il y a des tas de gens qui n'ont jamais su que le Messie était arrivé, était né au milieu d'eux. Néanmoins, la Bible nous dit qu'il y en a qui ont cru que le Messie était né. Et notamment, nous avons l'exemple de Siméon. Siméon, nous apprenons pas mal de choses sur lui. La Bible nous dit que c'était un homme qui était droit, juste. C'était un homme qui était pieux. Un homme qui attendait le Messie, qui attendait la consolation d'Israël. Un homme qui avait l'Esprit de Dieu sur lui. Un homme qui avait été averti. Qui avait été averti que quelqu'un viendrait et changerait la destinée du monde. Aujourd'hui, à chaque fois que vous voyez une croix quelque part, et dans notre pays, on ne peut pas dire qu'on n'en voit pas, grâce à Dieu. Si vous allez en Bretagne, vous en voyez à pratiquement tous les coins de la campagne. Il y a plein de calvaires. Si vous levez votre nez dans votre quartier, il y a de grandes chances que dans votre quartier ou dans votre village, il y ait une église avec une croix qui nous parle, quoi. Oui, de la mort, il ne peut pas y avoir de mort sans avoir de naissance. Si bien que, même d'une manière silencieuse, le message de la venue de Jésus continue à être annoncé. Et nous sommes avertis. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas une mode. Bien sûr qu'il y a eu cette mode de se porter des croix en boucle d'oreille ou en collier. Mais même cela, ça annonce quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cet homme, Siméon, la Bible nous dit qu'il avait reçu une promesse de la parole de Dieu. Il dit, le Messie va venir. Et il nous parle des caractéristiques de ce Messie. Il dit, il sera la gloire d'Israël. Oui, parce que ce Messie, peu même le savent, mais il est né parmi le peuple juif. Il n'est pas né catholique, il n'est pas les protestants, il est né parmi les juifs. Et la Bible dit qu'il serait la gloire d'Israël. C'est eux qui l'ont porté. Il nous est dit également, on l'a lu tout à l'heure, qu'il serait la lumière des nations. C'est-à-dire pour tous ceux qui ne sont pas juifs, Jésus est celui qui nous éclaire sur qui est Dieu, qui nous éclaire sur le rachat de nos péchés, qui nous éclaire sur le fait que nous pouvons avoir une conscience claire, débarrassée de tout péché, qui nous éclaire sur comment retrouver une relation, une amitié avec Dieu. Jésus est la lumière des nations. Siméon a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que la venue de Jésus avait été préparée devant tous les peuples, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est resté caché. Mais il a dit aussi, il dit, il sera... Je vous lis dans cette version, le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus. Alors, je précise, hein, Jésus est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Dieu. Et la différence, elle est énorme. Et Siméon dit à Marie, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. » Et il dit, « Toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » Qu'est-ce que Siméon est en train de dire? Il dit bien, « Celui qui arrive ne laissera personne indifférent. » quand ils auront entendu parler de lui. Il dit, la manière dont les gens vont réagir en entendant parler de Jésus, cela va révéler ce qu'ils auront dans le cœur. Et il nous est dit ailleurs, en Ésaïe, il nous est dit que Jésus est une pierre d'achoppement. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens entendent parler de Jésus, eh bien, où ils se laissent porter vers lui exactement comme Siméon. Réalisez que cet homme-là, il n'est pas dit exactement quel âge il avait. On pense peut-être 70 ans ou 80, 90, on ne sait pas. Peut-être que c'était un sacrificateur. Mais c'est quelqu'un qui attendait, qui attendait, qui attendait. Et un jour, la Bible nous dit, il était poussé par l'Esprit et ses pas ont croisé ceux du Messie. Quand ses pas ont croisé ceux du Messie, vous imaginez que Siméon était dans le temple et à chaque fois qu'il a vu un couple venir pour la présentation d'un enfant mâle, il a dû se demander, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui que j'attends? Et n'oublions pas, il attendait d'avoir un contact personnel avec le Messie pour mourir. Parce qu'à vrai dire, sans avoir eu un contact personnel avec le Messie, il n'est pas bon de mourir. Parce que Siméon dit, maintenant maître, renvoie ton serviteur. Dans une autre version, il dit, maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Cela veut dire, quelqu'un s'en va en paix uniquement quand il a accueilli le Messie qui vient de Dieu. Et ça, mes amis, c'est un message qui est extraordinaire, que cet homme avait été averti. Il avait dit, je sais que quand je verrai le Messie, alors je pourrai partir. Et il dit, je partirai en paix. Quand il dit, maître, renvoie ton serviteur, c'est un terme militaire. Cela nous parle d'une sentinelle qui a veillé les longues heures de la nuit. Il a fini son tour de garde et il va voir son officier supérieur et il dit « permission de rompre ». Alors, on ne sait pas combien de temps après Siméon est parti, mais là, un des messages de la venue de Jésus, c'est que nous puissions partir en paix. Alors, ça semble assez paradoxal. On dit, quoi, tu nous parles de la naissance et tu nous amènes à la mort. Parce que le plan de Dieu, c'est que ce bébé naît pour marcher avec Dieu, pour nous montrer le Père, était né pour mourir pour chacun de nous, afin que notre éternité soit assurée. Oui, nous célébrons la naissance de Jésus. Oui, nous célébrons le fait que Dieu soit venu dans un corps humain. Et c'est parce qu'il a accepté de revêtir un corps humain qu'il a pu verser son sang, qui a payé pour chacun de nos péchés. Dieu n'est en colère contre personne. Le prix des péchés a déjà été payé. Ne cherchez pas à payer pour vos péchés. C'est fait. Et franchement, payer deux fois pour la même chose, quel gaspillage. Le prix a déjà été payé, il faut juste le savoir. Et ensuite, accepter, accueillir. Voyez-vous, Siméon a dû accueillir le Messie. Vous imaginez, Dieu le Père aurait pu faire en sorte que quand son fils soit présenté au temple, l'atmosphère entière change, que Siméon, il y ait une puissance qui l'oblige à se prosterner. Que les rois mages, quand ils sont venus, qu'il y ait une puissance qui les oblige. Non, 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 non. La relation avec Dieu est une relation d'amitié, est une relation volontaire d'un être humain qui accepte de se rendre dépendant, qui accepte de dire « je ne sais pas tout, mais j'accepte au moins d'entendre ». Quelqu'un qui dit « je ne connais pas tout, mais j'entends parler de mon éternité là ». J'entends parler de quelqu'un qui est venu alors que je n'avais rien demandé. Et Siméon a fini par dire, maintenant maître, renvoie ton serviteur. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai vu. Et puisque j'ai vu sa naissance, Siméon a vu et salué de loin la mort, la résurrection du Messie, parce que la prophétie que le Père avait commencé à réaliser sous ses yeux, eh bien, il savait que cette même prophétie allait se réaliser jusqu'au bout et que oui, les péchés seraient effacés, seraient pardonnés à la croix. Vous savez, aucun autre Dieu n'a pu annoncer d'avance ce qu'il allait faire des milliers d'années et dire « c'est pour quiconque veut ». La seule manière de s'en aller, enfin en tout cas c'est la seule qui soit bonne, c'est de s'en aller en paix. Et avant de s'en aller, c'est quoi? C'est de vivre dans la paix avec quelqu'un qui nous aime. Parce que, voyez-vous, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de dire, oh, eh bien, ok, j'ai compris, il faut que je croie en Dieu, et bon, ben, voilà, je ne peux pas faire autrement, alors quitte à passer l'éternité avec lui, bon, ben, au moins, il me garantit quelque chose. Non. Hey, c'est de se laisser aimer. C'est juste ça, relax. C'est quelqu'un qui a accepté de venir dans notre condition. C'est quelqu'un qui a accepté de vivre comme un être humain. C'est quelqu'un qui a accepté de laisser l'endroit de gloire où il était pour descendre ici-bas afin de nous ramener là-haut. Parce que c'est ça le message. La boucle est fermée. C'est que nous retournions au Père. Et pour ceux qui se font du souci, nous n'allons pas nous ennuyer. Parce que certains s'imaginent, oh là là, je sais ce que je fais sur terre, et il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir. Non, mais cette terre ne devait être qu'un reflet de ce qu'il y a au ciel. C'est-à-dire qu'il y a un autre endroit qui fonctionne comme la terre aurait dû fonctionner au départ. Et la Bible nous dit qu'à cet endroit, il y a une ville immense qui s'appelle la Jérusalem céleste. Donc il y a déjà une ville. Par exemple, mon père est déjà parti et il est parti en paix. Il est parti comme Siméon. Il est parti en paix. Je peux vous dire où il est. Je peux vous dire où est le reste de son corps. Mais mon père, lui, je peux vous dire où il est. Il est dans la Jérusalem céleste. La Bible nous donne des descriptions sur cette ville. Et Jésus a dit, je suis la porte. Si vous voulez savoir comment entrer dans cette ville, je suis la porte. Je suis la porte. C'est ce que Jésus a dit. Alors, il y a tellement de choses que je pourrais encore dire sur ce passage. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Je pourrais reprendre ce passage pendant 4 dimanches et je n'aurais probablement pas terminé. Mais l'essentiel de ce message de Noël, oui, le Fils de Dieu est venu. Il a revêtu un corps que lui a donné Marie. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour nous donner l'opportunité d'être réconciliés avec Dieu. Pour recevoir la nature de Dieu en nous, elle change, elle nous change, elle fait de nous quelqu'un de nouveau. Vous avez peut-être entendu parler d'être né de nouveau. Voilà, c'est de cela dont il s'agit. Et puis surtout, quand nous avons quitté cette tente qui s'appelle un corps, quand nous l'aurons quitté, c'est de savoir, de choisir où nous allons. Parce que ça semble bizarre pour des gens, mais on peut vivre sans ce corps. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ce corps sur terre. Aucun être humain ne peut vivre sur terre sans ce corps, parce qu'on part ailleurs. Certains disent, oula, pasteur. Écoutez, les gens se trouvent que le message de l'évangile est idiot. Ils pensent que la Bible, c'est un conte de fées. Mais dès qu'on commence à leur parler de choses qui sont écrites, ils disent, oula, calme-toi là, calme-toi. Non, tout cela est écrit. Et encore une fois, aujourd'hui, eh bien, vous avez des tas de médecins qui ont mis par écrit les témoignages de personnes qui sont mortes cliniquement, des personnes qui se sont vues hors de leur corps. Ah, c'est bien. Est-ce que ce matin, je ne vois personne en pyjama, en chemise de nuit, donc vous avez déjà fait l'expérience d'être sans un vêtement? Hein? Vous me regardez comme si certains disent, oh là, pasteur. Hein, vous avez tous fait l'expérience, nous avons tous fait l'expérience de changer de vêtement, ben, c'est ça la mort. On laisse un vêtement et on en prend un autre. Mais l'essentiel est dans le vêtement. Nous sommes plus importants que ce corps. Et Jésus est venu et nous parle de cœur à cœur, cœur à cœur. Ce n'est pas à nos oreilles physiques qu'il nous parle, c'est à celle de notre être intérieur, à nous. Et il nous dit, comme Siméon, est-ce que nous allons accueillir le Messie, prendre le temps de se poser, de réfléchir à sa venue, ou est-ce que nous allons faire comme beaucoup, passer à côté, dire, off, plus tard, qu'est-ce que nous allons faire? Et personne ne peut prendre cette décision pour aucun de nous. Cette décision doit être personnelle. Mais en tout cas, comme Siméon, quelle joie d'avoir rencontré le Sauveur. Peut-être que aucun de nous ne l'a vu avec des yeux physiques, mais il y a plusieurs manières de voir, les amis. Et ça, on le sait. Il est possible de connecter avec quelqu'un sans l'avoir vu. Une des puissances des ordinateurs, du monde informatique, la technologie d'aujourd'hui. Mais là, on parle de connecter avec quelqu'un qui est vivant, qui attend que nous disions « Ah ben, je voudrais bien te connaître. » Et là, on entendra, eh bien, moi, je te connais depuis le début et je t'aime. Courbons le front, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour vous, pour ceux qui disent, tu sais, pasteur, ton message m'a parlé. Eh bien, j'aimerais vous donner l'occasion d'accepter ce Seigneur-là. De ne pas juste passer à côté, voilà une autre journée, on est le 24 et demain on sera le 25 et à part le repas, il n'y aura pas grand chose qui sera différent. On parle de l'éternité, on parle d'avoir un contact, de laisser le Seigneur nous contacter, changer notre cœur, recevoir le pardon de nos péchés, recevoir la vie éternelle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prière, parce que si je vous demandais de prier, peut-être que vous seriez mal à l'aise. Je vais faire une prière. Si ces mots vous parlent, je vais vous encourager à la répéter. Et quand vous la répétez, eh bien, Dieu entendra votre cœur. Ce ne sera pas la mienne, ça deviendra vos mots à vous. Jésus est la lumière par laquelle nous voyons. Vous voulez bien tous répéter cette prière? Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je n'ai rien de bon à t'apporter. Parce que ma bonté n'est pas à la hauteur de la tienne. Je voudrais retrouver le chemin vers toi. Je veux bien de cette amitié que tu me proposes. Et pour que rien ne vienne entacher cette relation entre toi et moi, j'accepte le pardon de mes péchés. Je crois que Jésus a versé son sang et que c'était le prix à payer pour mes péchés. Je comprends que tu m'as mis en règle avec toi. Je reçois ton amour. Je reçois ta vie. Jésus est la porte qui me conduit dans l'éternité auprès du Père. Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé ton Fils, de m'avoir donné la possibilité de recevoir la vie éternelle. Amen. Vous voulez bien dire à votre voisin, Dieu m'aime. À droite, à gauche, devant, derrière. Et puis tu peux dire à ton autre voisin, Dieu t'aime. Et c'est vrai. Alors, je prie pour que vous preniez le temps de lire peut-être le passage, prenez dans Matthieu ou dans Luc, le passage de la venue de Jésus. Dites-le aux enfants. Dites-leur que Dieu est bon. Dis-leur que Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu sera toujours avec eux. Et ils grandiront confiants en sachant que vous n'êtes pas Dieu. Et c'est vrai, c'est dur pour les parents de dire à son enfant, et c'est pas moi Dieu. Joyeux Noël. Mais qu'il soit joyeux de chez joyeux, celui-là. Joyeux de chez joyeux. Vous avez déjà vu quelqu'un qui sait qu'il est aimé de quelqu'un d'autre ? Il marche à 3 mètres au-dessus. Alors que dans les familles, il y a cette joie de se savoir aimé inconditionnellement de Dieu. Que ce soit vraiment cette joie de vous savoir aimé qui soit vraiment tangible pendant ces moments avec votre famille, vos amis. Joyeux, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse.